BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, on en parle tout au long de cette première demi-heure avec vous, Jean Cavazoué. Merci d'être là, ancien directeur des hôpitaux de Paris. Vous êtes un expert parmi les experts de la santé. On en parle aussi avec Frédéric Collet, le président du LEM, qui est avec nous aussi. Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour,
Frédéric
Chirion.
Collet, vous êtes, on va le rappeler, important dans cette bataille de vaccins, le patron de Novartis pour la France. On en parle bien sûr avec notre spécialiste santé, Hélène Cornet. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci d'être là. Et après, c'est Frédéric Bizarre, économiste de la santé, président de l'Institut la santé qui sera avec nous. Juste un mot, Jean Cavazoué, ce qui se joue en ce moment là chez Sanofi, c'est important ou pas? C'est un signal fort quand même,
oui,
malgré la polémique.
Oui, bien sûr, mais surtout que c'est vraiment un de nos fleurons. Sanofi, d'abord, c'est une très très grande entreprise mondiale, et c'est aussi l'héritier d'une tradition pasteurienne, Pasteur Mérieux, et racheté par Sanofi.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Hélène, rapidement les enjeux, justement, aujourd'hui?
Oui, effectivement, l'heure est à la mobilisation autour du vaccin et des médicaments. L'accès rapide à un vaccin, eh bien, dès qu'elle sera mis au point, c'est devenu un enjeu presque politique, que sanitaire,
oui.
Finalement.
Si, ça c'est la question suivante.
Exactement. Et malgré finalement tous les discours, le vaccin c'est un bien public national, mondial, eh bien, chaque pays, en fait, tente quand même de sécuriser ses approvisionnements, d'où la visite d'Emmanuel Macron chez Sanofi, d'où l'accord signé il y a quelques jours avec AstraZeneca pour sécuriser des millions, 300, on parle de 300 millions de doses de vaccins s'il est efficace. Et voilà, et en fait, toute l'idée, c'est finalement d'avoir un approvisionnement, d'avoir une sécurité sur ces vaccins au niveau de cette guerre qui est finalement mondiale, nationale, européenne, il faut se coordonner.
Oui, puis derrière, je dirais, il y a plus long terme derrière, il y a toute la question justement de la souveraineté. On a bien vu qu'on a découvert que les lignes de Doliprane étaient fabriquées en Chine. Enfin, on a découvert beaucoup de choses à l'occasion, enfin, pour le commun des mortels. Peut-être pas vous, Hélène, mais c'est sûr. Frédéric Collet, président du LEM. LEM, on va le rappeler, c'est le syndicat des entreprises de santé. Est-ce qu'il y aura un vaccin, Jean Cavazoué, d'ici? Si, il y a un vaccin. Hélène Cornet aussi, est-ce que vous dites aussi rien est moins sûr. Il y aura un vaccin ou pas?
Écoutez, les deux précédents interlocuteurs ont souligné le mot de mobilisation. Et effectivement, cette crise, elle a amené à une mobilisation exceptionnelle. Vraisemblablement, si j'écoute ce qui se dit dans les différents laboratoires, nous aurons un vaccin en 2 ans, là où normalement il faut entre 5 et 7 ans. Donc mobilisation, c'est le terme.
Oui. Est-ce qu'il y a une véritable course, non? En fait, là, en ce moment, c'est un enjeu très important pour les laboratoires.
C'est un enjeu qui est extrêmement important et qui se fait dans un cadre complètement inédit, puisque vous avez entendu toutes les associations, les collaborations qui peuvent se faire, public-public, plus public-privé, privé-privé également. Et un certain nombre de grands laboratoires, de grands acteurs mondiaux du vaccin ont annoncé des associations qui vont certainement accélérer encore la recherche et le fait que nous trouvions une solution rapidement.
Oui. Juste Frédéric Collet, pourquoi on a découvert qu'il y avait donc des productions qui avaient largement quitté la France? Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi on ne produit plus, en tous les cas suffisamment, en France? C'est un long combat du LEM, du reste que vous présidez.
Oui, absolument. Vous avez raison. Et peut-être, permettez-moi de dire, nous découvrons que... Et en fait, nous ne découvrons pas tout à fait cette situation. Cette situation, elle est connue depuis un certain temps. Nous l'avons signalée, nous avons alerté sur ce sujet parce que, effectivement, nous avons perdu en compétitivité par rapport à d'autres pays. Et la raison est très, très simple. C'est que notre outil de fabrication est essentiellement consacré à des produits dits matures, à des formes sèches, etc. Or, aujourd'hui, nous sommes dépendants sur ces produits matures de ce qui peut se faire à l'étranger parce que ce sont des produits qui sont fortement exposés en termes de prix, fortement exposés également au générique. Et donc, la notion de valeur et de compétitivité est extrêmement importante. À l'autre bout de la chaîne, nous sommes par contre insuffisamment représentés dans la pharmacopée de demain, les produits de biotech. Retenez qu'aujourd'hui, 3% seulement des produits de biotech, qui représenteront 50% de la pharmacopée dans les quelques années qui viennent, seulement 3% sont fabriqués en France. Ouais. Donc l'enjeu est là.
Ouais. Jean Cavazoué.
Oui, écoutez, c'est assez simple. Il y a trois sujets. Le premier, c'est des produits banaux, sans valeur ajoutée, génériquables, fabriqués dans le monde entier, dont on découvre que certains sont tout à fait essentiels. Et là, la question, c'est le coût du travail. Mmh. Il y a un deuxième sujet qui est les biotech en France. Donc, beaucoup de choses ont été inventées par des Français.
Oui.
Et notamment, une publication extraordinaire, mais qui a été brevetée par Genentech et vendue récemment 50 milliards de dollars. Nous n'avons pas breveté, ou Pasteur n'a pas breveté. Et il y a le sujet du coût des médicaments en France, et beaucoup des gens qui nous écoutent, et peut-être vous deux, avaient été chez le pharmacien, qui, le pharmacien a dit nous sommes en rupture de stock. Et ça, c'est dû au très bas prix de remboursement de l'assurance maladie. Et enfin, et pour moi le sujet essentiel, c'est le rôle barrière des agences françaises qui non seulement ne favorisent pas les entreprises françaises, mais les pénalisent au point où les entreprises françaises, et c'est vrai des biotech en général et pas uniquement des médicaments, et c'est vrai aussi toute l'industrie biomédicale, les tests se font en Allemagne ou aux États-Unis. Donc on a eu énormément de découvertes françaises. Par exemple, c'est un médecin, un jeune professeur de Rouen qui a découvert le TAVI, qui est un... Mmh. Bon, et il n'a pas réussi à développer ce produit en France, et c'est une entreprise américaine qui l'année dernière a vendu pour $1 milliard de TAVI. Enfin, ouais. On pourrait reprendre les exemples et les multiplier.
Oui. Juste, je vous vois acquiescer après, Hélène Cardin, j'ai une question pour vous, mais Frédéric Collet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire, là, les barrières qu'a soulevé Jean de Carvazouet ?
Oui, absolument. Et je pense que nous sommes face à un double enjeu. Nous sommes à un enjeu d'attractivité et un enjeu de compétitivité. En ce qui concerne la compétitivité, c'est-à-dire la façon dont on va attirer et préserver en France ces usines, ces centres de fabrication, là aussi, selon qu'il s'agit de produits matures ou de produits innovants, les leviers ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut bien avoir en tête, typiquement, sur les produits matures, ce sont des produits qui sont sous très très forte pression de la régulation en termes de prix et sur lesquels ils sont fortement pénalisés. Et à contrario, sur les produits que nous voulons attirer, sur les produits de biotech en particulier, là, nous avons des enjeux qui peuvent être notamment des enjeux de fiscalité sur lesquels nous sommes en France extrêmement créatifs en matière de fiscalité. Je vous donne un seul chiffre. La fiscalité qui repose sur les entreprises pharmaceutiques représente à peu près 62%, quand la moyenne des pays auxquels nous nous comparons est de 42%.
Ouais,
donc il y a un vrai enjeu en matière d'attractivité et de compétitivité pour ces entreprises.
Ouais. Hélène Cornet, qu'est-ce qu'on attend de cette visite du président Macron sur le site de Sanofi ?
Alors on attend des annonces, des mesures. Alors comment répondre en fait à ce problème d'attractivité ? On a déjà en fait des mesures fiscales, genre crédit d'impôt recherche. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? C'est justement toute la question. L'idée, c'est vraiment d'attirer les investissements étrangers pour faire de la France un domaine d'excellence, en fait. Alors, peut-être par catégorie, hein, peut-être dans les vaccins ou peut-être sur d'autres maladies. Je sais qu'on est très fort, par exemple, dans l'oncologie. Voilà, il faut avoir peut-être des mesures fiscales et aussi des mesures en termes de règles, de réformes. Est-ce que avoir entre les essais cliniques, par exemple, les essais cliniques, c'est quelque chose qui est quand même très important pour que les patients français puissent bénéficier des meilleurs médicaments. Est-ce qu'on va alléger un petit peu toutes les normes ? C'est la question.
Oui. Il y a la question aussi du prix du médicament. Vous l'avez soulevé tout à l'heure.
Oui, alors Frédéric Collet a dit quelque chose de très simple et que je répète en le disant simplement autrement, c'est que nous avons un très très grand avantage, c'est le crédit d'impôt recherche.
Oui, parce qu'il existe déjà quelque chose.
Hein. Ça marche.
Ça marche.
Et ça attire en France énormément de recherches. Ce qui ne marche pas en France, c'est ce qui vient après. C'est-à-dire, et vous venez de l'évoquer, les essais, et les autorisations et la bienveillance des autorités de régulation. Pendant le Covid, un laboratoire français qui faisait des tests m'a dit, écoutez, c'est formidable, on a eu en 3 semaines ce qu'en général, on a au bout de 5 ans. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Hein, ouais. Donc. Et la raison d'ailleurs pour nous revenir à l'accord entre les États-Unis et Sanofi, que vous avez évoqué
en avec les déclarations, on se souvient de Paul Hudson en disant qu'il réservait.
Alors, il s'est passé quelque chose de très simple qui est le suivant, c'est que l'agence de régulation à négocier avec une entreprise qui est totalement interdite en France et en Europe. Ouais. Donc c'est l'agence de régulation, l'agence de test, qui a dit, écoutez, si jamais vous découvrez quelque chose qui est prometteur, nous participerons en phase 3 avec vous et nous acheterons à ce moment-là. Donc c'était ça qui a été dit tout simplement par le directeur de Sanofi.
Oui. Frédéric Collet, moi j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que Hélène Cornel l'a dit, il y a déjà le crédit impôt recherche, ça fonctionne très très bien, mais en même temps, on sait que Sanofi a largement délocalisé sa recherche, par exemple, à Boston. Comment vous expliquez que, malgré les dispositifs, les recherches, parfois, ne sont plus en France ?
Alors d'abord, une grande partie de la recherche reste en France, et la France est un pays d'excellence scientifique qui est très reconnu, notamment dans le domaine des essais cliniques. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Jean Cavazouis, il y a un point qui est absolument essentiel. Bien souvent, aujourd'hui, quand on parle d'indépendance sanitaire ou d'attractivité sanitaire, on se concentre sur l'aspect industriel. Et l'aspect industriel n'est qu'un des éléments du puzzle. C'est l'ensemble de la chaîne qui doit être considérée, et c'est bien la filière complète. C'est-à-dire que l'attractivité va tenir à la cohérence. Nous devons commencer par assurer que le médicament sera recherché, puis développé en France, là c'est l'attractivité de la recherche clinique, fabriqué en France, et que toutes les conditions d'accès seront également réunies pour que le produit puisse bénéficier d'abord et avant tout aux patients français qui les attendent. Et c'est donc la cohérence de cette chaîne. Et on voit très bien que si l'un des éléments manque, alors cette cohérence est mise à mal. Prenons un exemple. Vous avez un médicament qui serait recherché, développé, fabriqué en France, mais qui arriverait en France dans des délais bien supérieurs à tous les autres pays. Ce serait tout à fait incompréhensible et incongru. Et donc, c'est bien l'ensemble de la filière qu'il faut considérer, parce que c'est ça le gage d'attractivité.
Oui. Ça veut dire en français Nantes, que l'assurance maladie et les instances compétentes donnent assez rapidement un tarif, une autorisation d'abord, et un tarif à fin. Mais il ne faut pas que le délai dure un an et demi, deux ans, et donc ce qui conduit beaucoup d'entreprises à vendre à l'étranger une fois qu'ils ont l'autorisation de mise sur le marché, parce que les prix sont négociés beaucoup plus vite.
Oui, c'est ça, toute la problématique en fait des relocalisations, c'est aussi le prix et le coût du travail. Est-ce qu'on est prêt, nous, à dépenser 10 euros notre boîte de Doliprane? C'est toute la question. Ouais. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une transformation quand même de l'industrie du médicament. On n'est plus vraiment sur de la chimie, on est aussi sur des biotechnologies, et il faut prendre ce virage un petit peu technologique. Ouais. Ouais. Là, je voulais juste rebondir sur Sanofi, qui, il y a quelque temps, disait vouloir créer une usine sur les principes actifs en Europe. Eh bien, cette fois, ils veulent investir 600 millions d'euros dans la recherche sur les vaccins et faire de la France ainsi un pôle d'excellence mondiale, disent-ils, dans la recherche et la production de vaccins.
Ah ben voilà, justement, j'allais vous dire, vous avez entendu ces déclarations. Frédéric Collet, je rappelle que vous êtes président du LEM, le syndicat des entreprises de médicaments, et puis le patron de Novartis pour la France. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette journée aujourd'hui en termes de, est-ce qu'il faut plus de crédit d'impôt recherche, qu'est-ce que vous attendez? Moins de fiscalité.
Deux choses. Oui. D'abord, cette nouvelle est une excellente nouvelle et je me réjouis beaucoup que le champion français prenne ce type de mesures et pour redonner encore de l'attractivité à la France et à l'Europe. Donc c'est une excellente nouvelle et je dois dire que la crise dans les dernières semaines a montré également l'engagement des grands laboratoires internationaux. Ici, c'est un champion français. Là, c'était la semaine dernière des acteurs américains qui avaient annoncé qu'ils étaient prêts à s'engager pour fabriquer, développer en France et en Europe. Donc là aussi, ce sont des nouvelles importantes. Et quelquefois aussi, il faut des entreprises plus petites. On l'a vu dans la presse dans les derniers jours. Donc moi, je me réjouis énormément de cette attractivité. Et du coup, le message que j'attends d'aujourd'hui, c'est le signal. C'est le signal que nous voulons redonner à cette filière tous les moyens pour être attractif. Or, je précise quelque chose qui est essentiel. C'est que les entreprises du médicament sont des acteurs de santé et des acteurs économiques. Mmh. Et nous avons beaucoup à apporter dans le débat actuel.
Merci beaucoup Frédéric Collet d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez une journée chargée.
Merci à vous.
Vous êtes réélu à la tête du LEM. Hein, donc on vous laisse. Merci beaucoup. L'Emile RH se poursuit toujours avec Jean Cavazouet, Hélène Cornet. Et dans un instant, c'est l'économiste de santé Frédéric Bizard qui sera avec nous. À tout de suite.
Chat, email, réseaux sociaux, voix, contenu en self-service, vos clients sont là. Zendesk est la plateforme CRM pour centraliser les interactions et fluidifier les conversations entre collaborateurs et clients. Réduisez les temps de réponse et améliorez la productivité et la satisfaction. Les meilleures expériences clients sont conçues grâce à Zendesk. Rendez-vous sur zendesk.fr.
Ce soir à 21h05 sur RMC Story, Louis XV, le roi aussi aimé que détesté. Et Louis XVI, le jeune homme qui ne voulait pas être roi. Au cœur des destinées royales, la légende de Versailles, c'est ce soir dès 21h05 sur RMC Story, Canal 23.
Que vous travaillez à domicile ou au bureau, vous pouvez compter sur Verizon Connect pour travailler n'importe où. C'est le système de géolocalisation pour gérer vos équipes terrain, aussi efficace sur PC et smartphone. Vous voulez pouvoir travailler partout ? Appelez Verizon Connect au 0800 73 73 73.
Et si c'était le moment de passer à la fibre pro Orange ?
Moi, avec Orange, je vais relancer mon activité avec la puissance de la fibre.
Moi, en plus, l'installation de la nouvelle Livebox 5 est incluse.
Et moi, j'ai rendez-vous par téléphone avec un expert Orange pour découvrir tous mes services.
On se refuse rien, dis donc.
Je vais me gêner, tiens, c'est inclus.
Avec Orange et la fibre pro, relancez votre activité à la vitesse de la lumière. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr, en boutique ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Restez informé des sujets qui vous concernent en consultant les dossiers de la rédaction. Emploi, entreprise, bourse, argent, immobilier. BFM Business, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique en temps réel. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet.
Vous êtes toujours dans le rage avec nos invités. Je vous rappelle Jean Kervazoué, ancien patron des hôpitaux et expert de santé. Hélène Cornet, notre spécialiste Madame Santé à BFM Business. Et puis avec nous maintenant Frédéric Bizard, économiste de santé, président de l'Institut de santé. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voudrais juste renchérir peut-être sur ce que vient de dire à l'instant Frédéric Collet, le patron du LEM, du syndicat des entreprises des médicaments, qui était là notre invité, en disant peut-être les relations un peu compliquées entre le public et le privé. Finalement, Jean Kervazoué, vous étiez le patron des hôpitaux. Est-ce que c'est peut-être là le nœud gordien
Mais c'est tout à fait central. On ne comprend rien à la crise récente, y compris pour les masques, si on ne sait pas que depuis 2012, Mme Touraine, ministre de la Santé, pour ne pas la nommer, on a demandé 300 millions d'économies par an sur les achats. Et ça, en français dans le texte, ça veut dire acheter en Asie. Mmh. Bon, c'est simple. Et donc, moi, quand j'étais directeur des hôpitaux, j'avais passé un accord entre les industriels et les hospitaliers pour développer des scanners, des gamma caméras, de façon à ce qu'il y ait une industrie biomédicale française. Donc, on est obligé d'avoir une complicité. Ça ne veut pas dire une compromission, mais on est obligé d'avoir une complicité.
Alors, Frédéric Bizard, est-ce que, vous êtes d'accord ? Comment vous expliquez qu'en fait, la France soit plus attractive en termes de médicaments, alors qu'on a, Frédéric Gollet le rappelait, on a quand même de très magnifiques entreprises, dont évidemment Sanofi ?
Il y a plusieurs raisons à cela. Une raison qui est propre à l'industrie pharmaceutique, qui est le fait qu'on a un petit peu raté le virage des biotechnologies.
Oui.
Plus de 80% de notre tissu industriel est tourné vers des produits de base chimique qui ne représentent plus l'essentiel des produits innovants. Donc on a un gros retard dans notre tissu industriel pour la production de ce qui fait l'innovation aujourd'hui, donc toutes ces biotechnologies. Donc en fait, on produit des anciens produits. Si vous regardez, on produit des produits matures. Tous les produits, parmi les produits qui ont été lancés sur le marché avant les années 2000, on en produit à peu près 50% par rapport à notre consommation. Mais si vous prenez les produits qui sont sortis depuis 2010, on n'en produit plus que 10%. Donc on a un taux de dépendance très important par rapport aux produits innovants. D'autre part, à partir du moment où on a un modèle social aussi généreux que le nôtre, et c'est plutôt une bonne chose, il faut plutôt être tourné vers des produits à forte valeur ajoutée. On a plutôt tendance à produire des produits et des médicaments à faible valeur ajoutée. C'est un peu le même problème que pour l'industrie automobile. Il ne faut pas produire des Dacia en France. Et on a plutôt tendance à produire des Dacia sur le marché pharmaceutique. Il faut aller sur les produits et on a tout, je suis d'accord avec Frédéric Collet, on a absolument tous les atouts en matière de recherche, d'innovation technologique, de ressources pour produire des produits fortement innovants. Et c'est ce virage-là qu'il faut prendre.
Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour assurer la souveraineté, l'indépendance de la France ? On voit qu'au niveau européen, pour une fois, il y a une initiative qui a été prise des quatre grands pays sur les vaccins. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, justement, d'avoir plus d'indépendance de la France ?
Oui, il y a une marge pour le faire. D'abord, il y a par rapport aux produits génériques, on a été beaucoup trop loin dans la sous-traitance aux produits d'Asie, dans la production de ces produits génériques, dans la production de ces principes actifs. Donc, il y a un rééquilibrage pour ces produits-là à faire, pas uniquement au niveau de la France, au niveau de l'Europe, pour être moins dépendant de l'Asie. Ensuite, par rapport aux produits à forte valeur ajoutée, aux produits de biotechnologie, là, la concurrence, elle est principalement dans l'Union européenne et aux États-Unis. Donc là, il faut que la France investisse massivement dans ces structures de production tournées sur la biotech. Et on en a. Donc là, c'est de l'investissement qu'il faut mettre. Troisième point, je pense qu'il faut construire un Airbus du vaccin. Le vaccin est vraiment un bien sur lequel il y a une domination européenne. Et c'est un bien qui va être un bien essentiel en matière de soft power dans les décennies à venir. On a perdu la bataille des technologies de l'information, mais on peut gagner la bataille des biotechnologies, notamment la bataille du vaccin. Mais là aussi, il faut créer une alliance européenne, comme on l'avait fait dans l'aéronautique, pour peser sur le marché mondial, notamment pour faire de ces vaccins ce bien public dont on parle beaucoup, mais pour permettre à l'Europe de dominer ce marché-là. Et je pense qu'on en est capable sur ce segment-là.
Jean Carvazoué, parce que c'est intéressant ce qu'il dit, effectivement, c'est qu'on a peut-être loupé le train des biotech, mais on peut encore le rattraper, mais au niveau européen.
Non, mais ce que dit Frédéric est d'autant plus triste que ça s'est fait sur beaucoup de découvertes européennes, notamment des découvertes à l'Institut Pasteur, il y a maintenant plus de 40 ans. Là, si vous voulez, on a vraiment un handicap. Cet handicap s'appelle OGM. Donc, parce que entre les biotechnologies végétales et les biotechnologies animales, c'est vraiment les mêmes. Et vous n'avez pas de base de données nationale en France où vous auriez une centaine de millions de génomes d'êtres humains. Donc ces bases de données, elles sont aux États-Unis, elles sont dans certains pays comme l'Islande. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre, et il y a beaucoup de réticences sur ces sujets qui sont tout à fait centraux.
Mais est-ce que c'est pas l'opposition? Justement, je reviens à ma question public-privé. Vous m'en parliez de Marisol Touraine, mais on voit bien qu'il y a une relation très difficile entre le LEM, pour ne pas le citer, les grands labos, et puis l'administration de santé française.
Vous avez tout à fait raison. Donc, moi, comme j'ai été élevé.
J'ai l'impression qu'ils se font de l'argent sur nous, quoi.
Oui. Non, j'ai été élevé chez les curés, donc je me méfie beaucoup des gens qui vendent la pureté. Donc, en France, ça s'appelle principe de précaution, et ça s'appelle conflit d'intérêts. Or, il se passe aujourd'hui que la réglementation en matière de conflit d'intérêts fait que dans certains domaines, on n'a plus d'experts, parce que les experts qui travaillent pour l'État ne sont pas payés par l'État, donc ils travaillent pour les entreprises, et on a énormément de mal à faire en sorte que toute la chaîne que décrivait le représentant du LEM à juste titre, cette fin de chaîne qui est celle de l'expertise, qui est celle de l'ouverture, qui est, etc., elle ne se fait pas bien en France.
Hélène Cornet, c'est la première fois qu'il y a une initiative au niveau européen, non, sur ce vaccin.
Oui, effectivement. C'est vraiment le mot d'ordre. La coordination européenne, c'est par là que ça doit passer. Et donc, l'accord avec AstraZeneca, donc évidemment, ils appellent aussi d'autres pays à venir les rejoindre. Un accord qui pourra être fait avec également d'autres groupes pharmaceutiques. D'ailleurs, Emmanuel Macron, cet après-midi, tient une vidéoconférence avec plusieurs groupes, dont Moderna, Pfizer, GSK, Johnson & Johnson, de faire le point sur l'état de la recherche et se mettre un petit peu d'accord sur cette souveraineté qui serait, si elle n'est pas nationale, au moins européenne, pour ensuite distribuer finalement les vaccins au prorata de la population.
Oui, il faut dire que beaucoup d'entreprises que vous avez mentionnées, Hélène, sont dirigées, ou du moins il y a des Français dedans qui ont un rôle important.
Oui, Moderna notamment.
Moderna notamment. Donc comme quoi les Français, vous avez raison, Jean Carvazeau, de dire qu'on était assez bon là-dessus. Frédéric Bizard, vous avez échappé à cette question, mais donc je vous la pose. Vous pensez qu'il y aura un vaccin ? On aura un vaccin bientôt, à l'automne, comme le disent certains, notamment AstraZeneca ?
D'après moi, les experts lequel j'ai discuté, oui, il y aura un vaccin. À l'automne, probablement pas. On parle plutôt de fin 2021. Sous réserve que l'on trouve, par exemple, que le candidat d'AstraZeneca soit le bon, c'est-à-dire qu'on utilise déjà des vaccins existants, des technologies existantes qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais là, c'est même dans le cas AstraZeneca va certainement gagner la bataille dans la rapidité, mais la mère des batailles, c'est l'efficacité. Rien ne dit au moment où on se parle que ce vaccin-là sortira avec une efficacité suffisante. Donc, très honnêtement, voilà, c'est un pari. Il y a plusieurs voies de recherche et ce qui comptera à la fin, c'est l'efficacité. C'est pas le premier arrivé, c'est le premier arrivé avec un vaccin efficace. Ensuite, il y a les enjeux de production et de distribution. Mais juste un petit mot par rapport à ce que j'ai entendu. Jean a parfaitement raison. La France a créé ses propres obstacles pour rester dans les leaders mondiaux, aussi bien dans la recherche que dans la production. Mais il faudrait arrêter de faire du médicament, enfin, de l'instrumentaliser sur le plan politique. Il faut avoir une politique du médicament et pas faire de la politique avec le médicament. Donc on est arrivé à une espèce d'hystérie entre les relations de l'État avec l'industrie, entre les relations de l'industrie avec l'opinion publique, où c'est celui qui sera le plus négatif, le plus critique, le plus contraignant vis-à-vis de cette industrie qui l'emportera auprès de l'opinion publique.
D'accord. Ouais, merci.
Donc ça, c'est un obstacle majeur pour les grands laboratoires pour investir en France.
Merci beaucoup à Frédéric Bizard. Jean Carvazou, peut-être le mot de la fin. Est-ce que cette souveraineté, cette relocalisation, est-ce qu'il y a des chances?
Alors oui, parce qu'il y a des forces qui ne demandent qu'à s'exprimer. Nous avons une excellente recherche, un excellent enseignement français. Il y avait un doyen danois qui me disait il y a une dizaine d'années, vous êtes la seule alternative crédible à l'américanisation du monde. Alors aujourd'hui, il faudrait rajouter la sinisation du monde, mais on a une excellente médecine et très très originale. Simplement, c'est le début de la chaîne.
Et si on trouve des vaccins, et puis si on attend toujours les décisions, incessamment sous peu, paraît-il, d'Emmanuel Macron pour nous aider, pour voir si la souveraineté de la France est quelque chose qui peut devenir une réalité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Frédéric Isnard, merci beaucoup Jean Carvazoué, merci Hélène Cornet. Dans un instant, on va parler de manière plus large de la souveraineté, de l'indépendance de la France avec le numéro 2, un bis même, du MEDEF. Patrick Martin qui, en plus, lui, son usine n'est pas très très loin de là où se trouve actuellement Emmanuel Macron. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Merci d'être avec nous, Patrick Martin. Surtout que vous auriez pu être avec Emmanuel Macron sur le site de Massy l'Étoile près de Lyon, le site de Sanofi, où est le président de la République.
Merci.
Parce que vous êtes juste à côté, en l'occurrence, votre Absolument. Entreprise. Et de là-bas, on va parler avec vous d'indépendance, de souveraineté. Ça, c'est dans les médicaments, mais souveraineté économique. Le discours du président dimanche soir, j'imagine, vous a quand même rassuré sur le fait qu'il fallait, il y avait une urgence économique. Est-ce que vous avez été convaincu par cette urgence économique? Est-ce que ça reprend le boulot, là? L'activité, est-ce que ça reprend?
Non, d'abord, on la plaine nos voeux, hein, parce qu'il y a un effet mécanique qu'on a mesuré au fil des semaines. Ouais. Chaque fois qu'un secteur se réouvre, il y a un effet accélérateur sur la reprise de la croissance. Donc on était très impatients. Effectivement, de ce point de vue, le président de la République a répondu à nos attentes.
Et donc le niveau d'activité, il est de combien là actuellement? J'imagine que MEDEF, ça remonte tous les jours, vous devez savoir.
Oui, on interroge toutes nos fédérations hebdomadairement. Quand ça n'est pas quotidiennement, on est aux alentours de 80-82% d'une activité normale. Ça fait toujours 20% de moins que ce qu'on aurait pu, ce qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu cette fichue crise.
Et quelles sont les fédérations, les secteurs où ça a du mal à reprendre?
Alors il y a des secteurs très importants liés à la filière tourisme, au sens large, qui pour certains ne redémarrent que depuis quelques jours, et puis pour d'autres n'ont pas encore ouvert. Je pense par exemple au secteur de l'événementiel, compte tenu de la jauge qui a été fixée sur les effectifs qu'on peut accueillir, les salons par exemple n'ont pas rouvert. Les frontières se rouvrent progressivement, les touristes étrangers ne sont pas là. Donc il y a encore beaucoup de mal, si je puis dire, dans certains secteurs.
et les autres secteurs, l'industrie
Alors, la consommation revient progressivement, de manière un peu erratique d'ailleurs, c'est assez surprenant. Par exemple, dans les concessions automobiles, il y a eu une réouverture absolument fracassante, avec probablement un effet rattrapage dans les commandes.
Puis oui, assez incroyable. Il faut le souligner, parce que c'est... Ouais. Là, on est dans la courbe en V directe.
Hein. V ou W, ouais. Enfin, on espère bien que ça sera une courbe en V. Dans le commerce non alimentaire, idem, il y a eu quelques premiers jours qui ont été très bons, puis ça s'est un peu tassé. Donc nous, on est très prudents quant à nos prévisions. Notre job, finalement, c'est d'encourager tout ce qui peut accélérer la croissance.
Oui. Alors, je voudrais revenir sur cette visite du président, même si vous n'êtes pas spécialisé dans les vaccins, Patrick Martin, mais ce qu'il veut prôner, en fait, c'est de dire il faut produire en France, il faut relocaliser en France, la recherche, mais pas seulement des sites. Donc Sanofi a répondu en disant on va investir 600 millions, donc c'est quand même une somme importante. Pour vous, c'est un petit signal qui est donné, là
C'est un gros signal, mais il était temps. Hein. Si vous voulez, l'industrie pharmaceutique française était la première d'Europe il y a quelques années, elle n'est plus que la quatrième. Mmh. Derrière tout ça, c'est vrai de la pharmacie, c'est vrai de la plupart des secteurs, il y a eu une perte de compétitivité, et derrière, il y a la pression des consommateurs, y compris des consommateurs publics, l'État, si on parle du prix du médicament.
Absolument, oui. Et donc ?
Eh bien, donc, il faut réunir les conditions de la compétitivité. Je pense qu'on a d'excellents fondamentaux. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, qui est une très bonne chose. On a une bonne qualité d'enseignement, etc., etc. Mais on a des pesanteurs en matière de réglementation. On a des pesanteurs en termes de charges qui font qu'un certain nombre d'entreprises, bon gré mal gré, ont délocalisé des productions.
Oui. Est-ce que je m'appuie toujours sur les déclarations du président de la République. J'imagine là vraiment, c'est un discours qui aurait pu être tenu par vous, enfin par le MEDEF, hein, lorsqu'il dit la priorité économique, l'indépendance, la souveraineté. Il a même parlé d'un vrai pacte productif. Il a même prononcé ce qui, pour les Français, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça, des impôts de production. Vous évidemment et nous aussi, on connaît le poids de ces impôts de production qui, je crois, c'est à peu près plus de 70 milliards. En plus hein, pour les Français. Donc là, pour relocaliser en France, il vous faut quoi ? Une volonté politique, vous l'avez, visiblement,
oui.
Non ?
Oui. 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 Il faut d'abord que les collectivités locales et l'État s'accordent entre eux, parce qu'il y a des chicaillages, je dirais, en matière de fiscalité. Il faut qu'il y ait un consensus sur le nécessaire abaissement du point mort des entreprises, notamment à travers ces impôts de production qui, je le rappelle, frappent le chiffre d'affaires, frappent la masse salariale, alors même que les entreprises concernées peuvent être en perte. Donc il faut remettre à plat cette fiscalité. On demande ça depuis des années. Ça avait été initié, je dirais, par Bruno Le Maire, qui à plusieurs reprises s'était exprimé. Mais là, le président de la République a parlé d'un vrai pacte productif, donc ça nous met en appétit.
Oui. En même temps, les collectivités locales, votre usine est à Bourg-en-Bresse, vous bénéficiez bien de services qui sont offerts. Donc il faut bien poser des... Enfin, moi je me fais un peu l'avocat du diable, parce que du côté des collectivités locales, ils disent, mais attendez, la voirie, ça coûte cher pour construire l'usine ou tout l'environnement autour. Donc, qu'est-ce qui serait acceptable pour vous ?
Non, mais il n'est pas question de remettre en cause la nécessité d'équipements publics de qualité. En revanche, la bonne gestion de la dépense publique est un vrai sujet. On le voit par exemple dans le secteur hospitalier, on paye à peu près la même chose que les Allemands, à part qu'on supporte beaucoup plus de coûts administratifs qui ne correspondent pas à des prestations de santé à proprement parler. Donc il faut revisiter toute l'organisation de la sphère publique pour qu'elle gagne elle-même en productivité, en réactivité, pour qu'un certain nombre de réglementations qui sont empilées au fil des ans et des décennies soient elles-mêmes remises à plat. Donc on a un gros effort de réengineering à opérer pour le privé, mais surtout pour le public, de sorte qu'on dégage des marges de manœuvre sans augmenter la fiscalité. Et puis par ailleurs, il faut que cette fiscalité soit intelligente, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'elle soit assise sur des agrégats, sur des indicateurs qui correspondent à quelque chose, typiquement l'impôt sur le bénéfice, qui est le socle de la fiscalité des entreprises dans la plupart des pays, est un bon indicateur. Mais faire payer sur le chiffre d'affaires ou faire payer sur la masse salariale, c'est contre-productif, c'est même antisocial.
Oui. Lorsque le président a parlé du vrai pacte productif, on sait, on va le rappeler à ceux qui ont peut-être oublié, il y a un pacte productif qui était en négociation avec Bercy, notamment avec Louis Gallois et Philippe Varin de la Fabrique de l'Industrie, mais évidemment avec le MEDEF. Ce pacte productif, on a l'impression qu'il était un peu enterré. Là, il ressort à l'occasion de cette crise.
Oui, il ressort, mais dans un contexte qui est encore plus contraint. On sait la dégradation des finances publiques, ouais, qui déjà n'était pas en très bon état avant même la crise du Covid. Donc c'est une équation complexe. Nous, dans cette affaire, on va être extrêmement contributeurs. La réponse de base, c'est qu'il faut recréer de la richesse et certainement pas augmenter les impôts, puisque là, on parle de baisser les impôts de production.
Ouais, mais donc comment on crée de la richesse ? Et comment on se désendette ? Il faut bien financer tout ça.
Bien sûr.
Si en plus on veut supprimer d'autres impôts de production, comment on finance ?
Non, mais on voit bien qu'à la fin de l'année, la sécurité sociale aura 55 milliards de déficit. La dette de l'UNEDIC sera d'ailleurs du même montant. Le Conseil d'orientation des retraites s'est exprimé hier matin. La situation s'est aggravée. En face de prélèvements obligatoires, de déficit et de dette qui ont augmenté, il faut qu'on trouve des marges de manœuvre. Donc il faut à nouveau augmenter la production. Comment augmenter la production ? D'abord, en encourageant l'investissement, en mettant en place des dispositifs pour refinancer le jour venu les prêts garantis par l'État qui ont été extrêmement précieux, mais qui sont des dettes pour les entreprises, pour permettre de rembourser les charges, pour donner de la visibilité aux chefs d'entreprise. Et puis, il y a le sujet que j'aborde spontanément, du travail, comment gagner.
On y arrive.
Il faut que le pays se mobilise, c'est l'intérêt de tous.
Oui. Cela dit, sur les impôts de production, lequel faut-il supprimer d'urgence ? Parce qu'il y en a 4 ou 5, lequel est important pour vous ?
Le plus stupide, hein, c'est ce qu'on appelle la C3S, qui frappe le chiffre d'affaires des entreprises de plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Après, il y a effectivement un certain nombre de fiscalités locales. Il y a ce qu'on appelle la contribution économique territoriale qu'on souhaiterait nous voir plafonner parce qu'elle affecte singulièrement les entreprises qui investissent le plus.
D'abord, est-ce que vous, avant de le travailler plus, est-ce que c'était quelque chose qui résonne évidemment de votre côté ? Est-ce que simplement vous pensez qu'en produisant plus, on créera suffisamment de richesses pour rembourser les centaines de milliards qui ont été dépensés ou qui vont l'être à l'occasion de cette crise, que ça soit en déficit de comptes sociaux ou autre?
Non, on en a pour des années, si ce n'est des décennies. Donc, il y a différents types de réponses. Par exemple, il va falloir doter beaucoup d'entreprises, y compris de petites entreprises, en fonds propres, en quasi-fonds propres, pour qu'elles puissent rembourser. Mais il faut bien augmenter la base de création de richesses. Tout ce qui va dans le sens de la reprise de la consommation, en particulier de manière assez urgente, qui permettra de mieux utiliser les capacités de production, qui permettra de préserver des emplois, qui permettra de créer des emplois au-delà de ça, tout ce qui peut aider à l'aménagement du temps de travail, tout ça créera de la richesse.
Est-ce que vous pensez que ça aussi est un peu, des entreprises qui étaient très fragiles, qui devaient mettre un peu la clé sous la porte, du coup ça a accéléré, mais du coup quelque part ça, j'aime pas cette expression, mais je vais quand même l'utiliser, donc je mets vraiment des guillemets, assainit la situation économique des entreprises?
Oui, alors il ne faut pas effectivement qu'on entretienne ce qu'on appelle dorénavant des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui, indépendamment de la crise du Covid, étaient en difficulté et auraient disparu. C'est un exercice compliqué, par exemple. Il y a un sujet extrêmement important qui ne parle pas au grand public, bien souvent, mais qui parle beaucoup aux chefs d'entreprise, qui est celui du crédit inter-entreprise, de l'assurance crédit. Il n'est pas question de soutenir toutes les entreprises contre vents et marées, parce qu'en plus, ça crée des distorsions de concurrence. Celles qui sont bien gérées, qui se développent, se font tirer dans les pattes, en quelque sorte, par d'autres qui seraient maintenues en survie artificielle. Donc il faut être un peu darwinien dans ce phénomène, mais il faut quand même bien tenir compte des circonstances très violentes, tout à fait exceptionnelles que l'on traverse.
Oui. Vous attendez à de très nombreuses faillites ou pas au MEDEF ?
Oui, on s'attend à de nombreuses faillites. Alors vous dire combien, mais il y aura plusieurs dizaines de milliers de faillites. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'altère pas fondamentalement les capacités économiques de notre pays. Alors, je pense que les dispositifs qui ont été mis en place, si on ne les retire pas trop vite, je pense en particulier à l'activité partielle, sont de nature quand même à sauver beaucoup d'entreprises jusqu'au moment où la consommation aura redémarré.
Ah, justement, vous parlez des entreprises zombies, j'ai envie de vous parler, Patrick Martin, des travailleurs zombies, parce qu'il y a toute une... polémique entre vous et le ministère du Travail sur les chiffres du chômage partiel, en disant, mais les chiffres qui sont donnés, c'était 12, et ici même la ministre les a donnés, 12, 10, 8 encore, vous dites non, en fait c'est pas le chiffre exact, il y en a beaucoup moins, parce que ça c'est des demandes, en plus c'est parfois une journée et puis parfois c'est beaucoup plus long. Quels sont vos chiffres, Patrick Martin?
D'abord, le vrai enjeu, c'est pas la polémique, c'est pas un débat d'experts.
Non, mais c'est intéressant.
Combien ça va coûter à l'État hein, puisque dans le cadre du projet de loi de finances rectificative numéro 3 qui vient d'être présenté, il y a encore 5 milliards qui ont été budgétés pour indemniser l'activité partielle. Ce qui est important là-dedans, c'est la réalité de ce qui est consommé. Donc les chiffres qu'a donné Mme Pénicaud sont vrais, mais c'était, vous l'avez signalé, les demandes conservatoires, je dirais, et en amont des entreprises. Après, elles ont plus ou moins tiré leurs droits sur l'activité partielle. Nous, on pense qu'en pic, on a été plutôt aux alentours de 6 ou 7 millions de salariés en activité partielle équivalente en plein, ce qui est malgré tout énorme, mais ce n'est pas 12 à 13 millions.
Ah oui, d'accord, donc c'est beaucoup, beaucoup moins. Et aujourd'hui, vous pensez qu'on est à combien ?
On pense qu'on est aux alentours de 4 à 5 millions.
Oui, d'accord, donc on n'est pas du tout, enfin on est quand même quasiment, enfin pas deux fois moins, mais enfin on est...
Ouais. Tant mieux d'une certaine manière.
Donc les 5 milliards pour vous sont surestimés ?
Ben, espérons-le. Espérons-le. D'une manière générale, et ça n'a pas été le cas dans l'histoire, les chiffres qui sont présentés par le ministère des Finances sont probablement pessimistes. Si on a une bonne surprise le jour venu, peut-être qu'il en tirera un bénéfice politique, le gouvernement. Mais en tout cas, le pays s'en portera mieux.
D'accord. Donc, est-ce que les moins 11% vous, aussi de baisse du PIB, vous pensez que c'est excessif ?
Bah écoutez, c'est la prévision la plus pessimiste au regard de ce que le...
Enfin, on regarde celle de l'OCDE, c'est un tout petit peu mieux, mais enfin, guère mieux. On va regarder celle de la Banque de France.
Oui, enfin, 0,7 points de PIB, ça fait quand même beaucoup d'argent.
Hein. Ouais.
Donc nous, on pense que ça sera un peu moins. Mais finalement, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, c'est aux entreprises elles-mêmes de se prendre en main pour que ça ne soit pas vrai, ces 11% de récession.
Alors, il y a une autre polémique qui a été lancée un peu par Gérald Darmanin chez nos confrères de BFM TV, qui disait on va revoir sans doute à partir du 1er juillet les conditions d'octroi et d'indemnisation du chômage. Chômage partiel. Mais hier soir, le ministère du Travail, Muriel Pénicaud, on est peut-être en plein remaniement. Il y a peut-être aussi des incidences politiques, je ne sais pas. Mais a dit, non, pas du tout. Vous, au MEDEF, qu'est-ce que vous demandez et qu'est-ce que vous savez, d'abord ?
Alors, ce que l'on demande, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que ces dispositifs précieux ne soient pas retirés précipitamment.
Oui, mais il n'est pas question de les retirer. Il est question de les retirer un petit peu.
De les amaudier, en clair, d'augmenter le reste à charge pour les entreprises, qui est d'ores et déjà de 15%. On n'a pas de visibilité sur ce que sera l'activité à la rentrée. Donc nous, on avait demandé que rien ne se fasse au-delà de ce qui a été fait au 1er juin avant fin septembre. A priori, c'est ce qui va être retenu par le gouvernement et c'est bien. Après, on travaille sur des dispositifs complémentaires, notamment pour l'activité partielle de longue durée. Il faut qu'on soit très mobile, très agile et très adaptable dans cette situation très incertaine.
Oui, mais en même temps, c'est un peu contradictoire, parce qu'on voit bien qu'il y a des Français, en tous les cas, c'est ce qui remonte de certains chefs d'entreprise, ici même, qui disent, mais on a des salariés qu'on a du mal à faire revenir. Après, il y a ceux qui préfèrent rester en télétravail, voilà. On va en dire un mot tout de suite. Oui. Non, mais même le chômage partiel, il y en a qui pourraient reprendre leur activité et qui ne le reprennent pas.
Oui, alors encore faut-il que juridiquement ils puissent ne pas la reprendre, parce qu'ils ne peuvent plus faire éteindre un droit de retrait.
Non, mais dans le BTP par exemple, oui, il y a un droit...
Oui, enfin dans le BTP, massivement les salariés ont repris. La vraie difficulté dans le BTP, elle n'est pas tellement celle-là, elle est que les protocoles sanitaires contraignent les entreprises, et les chefs d'entreprise sont tout à fait d'accord, à limiter la présence des salariés sur les chantiers. Donc on parle de sujets un petit peu différents. Alors qu'ensuite, une petite minorité de salariés, consciemment ou inconsciemment, se soit installé ou soit, comme disait Geoffroy Haute-Bézieux, sous morphine de l'activité partielle, c'est peut-être vrai. Mais je pense que majoritairement, les salariés sont conscients de la gravité de la situation et puis même pour des questions de vie sociale, souhaitent revenir au travail.
Oui, mais il y a une forme de traumatisme quand même. On a tous connu un traumatisme. Ouais. Le télétravail ne doit pas devenir la norme. Dixit, toujours Geoffroy Haute-Bézieux. J'imagine que vous partagez ce sentiment. D'abord, dans votre entreprise, le télétravail, ça a fonctionné ?
Ça a très bien fonctionné, parce que sans avoir imaginé la crise du Covid, on s'était équipé pour que, en termes de réseau, en termes de matériel, pour que nos salariés puissent massivement être en télétravail. Donc on a eu à peu près un tiers des 2600 salariés qui ont été du jour au lendemain mis en télétravail. Alors moi, mon point de vue de chef d'entreprise, mais il est largement partagé par les adhérents du MEDEF, c'est que c'était la bonne réponse à cette circonstance exceptionnelle, mais qu'il ne faut pas s'installer, par principe dans le télétravail, parce que ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes de productivité, des problèmes de lien social au sein de l'entreprise, des problèmes de cohésion, des problèmes d'intégration. Un salarié qui arrive dans une entreprise qu'on place en télétravail, il aura du mal à savoir ce qu'est l'entreprise.
Oui. Alors maintenant, il y a le grand point là. Faut travailler plus. Qu'est-ce que ça veut dire travailler plus ? Est-ce qu'on s'assoit sur les 35 heures ou... Qu'est-ce qu'on fait ?
Non, alors, ça a été dit notamment par Bruno Le Maire, il faut déjà que tous les gens qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'activité puissent revenir au travail parce qu'il y aura de l'activité. Ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la demande. Après, il faut qu'on travaille probablement différemment d'un secteur d'activité à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Il y a des situations extrêmement disparates. Et donc, notamment, mais pas exclusivement dans le cadre d'accords de performance collective, la loi permet un certain nombre d'accommodements pour s'adapter à la demande, pour s'adapter au niveau d'activité. Mais la règle d'or dans toutes ces affaires-là, c'est que ce soit étroitement concerté avec les organisations syndicales. Il n'est d'ailleurs pas possible de le faire sans les organisations syndicales. Il y a 5500 accords qui ont été passés pendant la période de confinement avec les syndicats. C'est vous dire si la vie sociale et le dialogue entre les partenaires sociaux a été plus que jamais riche.
Oui, mais il y a quand même un petit souci qui est les accords, c'est très bien, mais il y a ces fameux accords de performance collective avec à la clé la baisse de salaire, par exemple, négociation sur les RTT, sur les vacances. Vous avez fait ça chez vous ou pas,
non.
Patrick Martin ?
Jusque-là, je n'ai pas eu besoin de le faire.
Oui.
Mais ça peut arriver.
C'est un peu du chantage à l'emploi, vous faites, non ?
Écoutez, c'est une alternative quand même positive à des PSE, hein, des licenciements secs.
Oui, c'est un genre de chantage à l'emploi, non ?
Et puis, au cas par cas, ces accords de performance collective prévoient des retours à meilleure fortune, c'est-à-dire un rattrapage le jour venu des sacrifices que les salariés ont dû consentir pour faire face à une situation exceptionnelle. Bon, prenons un cas d'école, hein, celui de Richebourg Aéronautics.
Oui, qu'on vient de connaître, là, justement.
Ça a été signé par le syndicat majoritaire FO. Quand on décrypte, je dirais, cet accord de performance collective, il est assez équilibré au regard d'une situation qui est absolument catastrophique, puisque vous le savez très bien, dans l'aéronautique, il y a un effondrement de la demande. Donc là, l'alternative, elle est simple, c'est soit des licenciements secs au risque de perdre, enfin avec la certitude de perdre des compétences rares, ou ce dispositif qui est un pis-aller, mais qui en définitive répond quand même à l'essentiel des attentes, y compris, me semble-t-il, des salariés, puisqu'ils ont signé l'accord.
Oui. Patrick Martin, il a quand même... Est-ce que vous avez beaucoup de remontées de négociations sur des baisses de salaire au sein du MEDEF ?
Non.
Non ?
Absolument pas. Oui. Absolument pas. Et d'ailleurs, on s'est ému de la pratique de Ryanair, très, très autoritaire, très unilatérale, qui n'est pas du tout dans la culture sociale française et qui ne correspond pas du tout aux valeurs du MEDEF.
Oui. Donc, on travaille plus, mais comment ?
On travaille, je le disais, différemment déjà. Dans une entreprise, vous avez...
Donc l'urgence, c'est pas travailler plus, c'est travailler différemment.
C'est travailler différemment.
Oui,
il y a, et tant mieux, des secteurs d'activité des entreprises qui vont devoir faire face à un pic d'activité, ne serait-ce que pour rattraper ce qui n'a pas été fait dans les mois précédents. Prenons le cas du bâtiment. Il y a des très belles entreprises dans le bâtiment qui ont d'ores et déjà négocié avec leurs salariés, avec leurs organisations syndicales, un coup de collier pour les prochains mois, parce qu'en face, il y a des clients qui exigent le respect de délais de livraison, parce qu'il y a des surcoûts lié à l'étalement dans la durée des chantiers, ben voilà typiquement une situation où d'un commun accord avec les salariés, il est intéressant de travailler plus.
Patrick Martin, peut-être en conclusion, le monde d'après pour un chef d'entreprise comme vous, alors évidemment président délégué du MEDEF, mais c'est quoi ? C'est un monde... plus difficile ?
Alors, on s'interroge beaucoup là-dessus. On a créé un comité Renaissance qui est présidé par Enrico Letta, qui n'est pas un chef d'entreprise.
Non, mais qu'on connaît bien ici.
On n'a que des intellectuels, si on peut dire. Enfin, lui, il est...
Ancien président du Conseil italien.
Absolument.
Et aujourd'hui, président l'Institut Jacques Delors.
Le sentiment qu'on en a, c'est que ce débat est assez franco-français. C'est-à-dire que, pour certains, ça va être le Big Bang et que dès les prochains mois, on travaillera complètement différemment, peut-être dans le cadre d'une stratégie de décroissance. Nous, on pense qu'il faut prioriser les enjeux de reprise économique avec, évidemment, une sensibilité environnementale très forte.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Martin. Donc, assez confiant et puis assez volontariste par rapport... À la reprise de l'activité économique. Merci beaucoup d'avoir été ici dans le RH, le président délégué du MEDEF. Voilà, c'est la fin de le RH. On se retrouve demain à 8h15, je recevrai Julien de Normandie, donc le ministre en charge des villes, en charge notamment aussi de tout ce plan fibre. Est-ce que c'est important ou pas ? Et puis, il nous donnera les derniers chiffres de construction du logement pour voir justement si ça a repris ou pas repris. Et puis, bien sûr, rendez-vous dans le RH. Bonne journée.